Un grand bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle semaine qui commence. Bienvenue sur la chaîne Tech & Co et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tech Hebdo avec à mes côtés, bien sûr, le grand Jérôme Colombin.
Salut, oui,
Jérôme.
Ça c'est la taille. Salut François, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver comme tous les lundis sur Tech & Co. Allez, voici le sommaire. C'était l'un des pères fondateurs de la Silicon Valley, l'inventeur de la loi de Moore, l'un des papas des microprocesseurs, l'américain Gordon Moore est décédé, on va en parler.
Oui, et puis tiens, Jérôme, on va s'intéresser à un grand salon, sans doute l'un des plus grands salons européens dédiés à la tech, c'est Viva Technologies qui revient en juin. Quels seront les thèmes évoqués? On en parle dans quelques instants.
Je t'emmènerai sur les pistes de ski, François, mais pour faire du ski intelligent,
c'est toi, ce qu'on peut dire. C'est toi là qu'on voit. Hein,
absolument, avec un non sur le côté qui était dans le fossé en fait. Voilà, c'est Sirius, ce sera notre invité tout à l'heure.
Et un masque de ski connecté, voilà, pour tous ceux qui ont encore la chance d'avoir un peu de neige. Merci d'être là, Tech Hebdo, vous le savez, chaque lundi soir, c'est toute l'actu tech. Bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Et oui, nous sommes ravis véritablement de vous retrouver comme tous les lundis soirs.
Véritablement.
On peut dire ça comme ça ?
Bien sûr.
Véritablement et absolument.
Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc cette émission sur la chaîne Tech & Co sur les box donc Free, Orange, SFR et Bouygues, mais aussi sur la chaîne YouTube, sur l'appli RMC BFM Play. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, bien sûr, sur le compte de la chaîne Tech & Co.
Voilà, Tech Hebdo, vous savez comment ça marche. On est ensemble pour une petite demi-heure. D'abord l'actu, ensuite les invités. Donc bah, tout de suite, on commence par...
L'actu, c'est parti.
Pour l'actu, François.
Oui, c'est Louis Mbembe qui est avec nous. Salut Louis.
Salut, salut François. Louis. Salut Jérôme.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et donc, Jérôme le disait, c'est vrai qu'on est un petit peu guiré en ce lundi parce que c'est le début de la semaine.
Ouais.
Mais cette semaine commence mal, en fait, pour toute l'histoire de la tech, avec le décès d'un grand monsieur.
Bah oui, le décès de Gordon Moore, voilà, qui est décédé vendredi dernier à l'âge de 94 ans. C'était le cofondateur d'Intel, qu'il a créé en collaboration avec le physicien Robert Noyce en 1968. Et bien sûr, il est très connu en fait pour une règle fondamentale de l'informatique moderne, la fameuse loi de Moore, voilà, imaginée en 1965, qui concerne l'évolution de la puissance des ordinateurs. Alors forcément, vous allez me demander en quoi ça consiste.
Non. Mais en quoi ça consiste?
On allait te le dire.
Voilà, je préfère vous devancer du coup. Bah, en fait, selon cette loi, en fait, le nombre de transistors présents sur une puce électronique voilà, doublerait en fait, tous les ans.
Tous les deux ans,
en fait, à partir de 1980. En fait, ouais. 1970, c'était tous les chaque année.
Mois,
et puis ensuite, tous les deux ans.
C'est-à-dire qu'en 65, quand il avait commencé... Oui. À évoquer ce sujet-là, c'était tous les ans.
C'est ça.
Et puis après, ça a été un peu exponentiel, en quelque sorte.
Mmh. C'est ça, exactement. Et c'est une prédiction, du coup, qui s'est avérée tout à fait vraie, vu que l'évolution des capacités des microprocesseurs n'ont fait qu'évoluer au fil des années. Et surtout, ça a permis, justement, de faire baisser les prix, les coûts de fabrication et de démocratiser, justement, l'accès à ces technologies-là, d'ordinateurs personnels et actuellement de smartphones.
Jérôme, tu disais que c'était l'un des pionniers de la Silicon Valley, forcément.
Ah bah oui, c'est vraiment un des papas de la Silicon Valley.
Voilà, à 94 ans, on peut dire que Gordon Moore a connu en fait la genèse de la Silicon Valley.
Mais il a même participé vraiment à sa création. Ouais. Pourquoi ça s'appelle la Silicon Valley, on le rappelle, parce que c'est là qu'on fabriquait principalement les puces pour les ordinateurs. Et donc, Silicium est vraiment l'essor de cette région de Californie. Il en est en partie responsable. Hein.
Voilà, et aujourd'hui, Intel, c'est une boîte qui se porte bien, malgré la concurrence exacerbée avec les Qualcomm, avec les Nvidia, etc., etc., qui projette d'ailleurs d'ouvrir des usines de microprocesseurs en Europe, notamment, je crois bien. Ouais. Dans l'actualité, c'est Elon Musk aussi qui a fait une déclaration assez étonnante concernant l'estimation en fait, de Twitter.
Exactement. En fait, selon un document interne consulté par plusieurs médias américains, en fait, Elon Musk estime que Twitter vaut actuellement 20 milliards de dollars contre 44 milliards au moment de son acquisition. Donc,
Ah oui, c'est des stockages massifs.
C'est moins 50%.
Voilà,
c'est les soldes.
C'est moins 50. On vous vend Twitter, c'est moins 50, si vous voulez.
Il ne va pas vendre.
Ça te dit, Jérôme, ou pas?
Bon, non, moi, je préfère regarder ça de l'extérieur.
Tu gardes.
Ouais.
Et si vous voulez, en fait, cette contraction de la valorisation, en fait, s'expliquerait par les difficultés financières rencontrées par la plateforme, avec une perte de chiffre d'affaires quand même estimée à 1,5 milliard de dollars et des échéances de dettes d'un montant équivalent. Donc en tout, ça fait 3 milliards de dollars de perte de chiffre d'affaires. Mais cependant, Musk envisage toutefois un retour à l'équilibre au deuxième trimestre 2023, notamment grâce au retour d'annonceurs publicitaires qui avaient un peu déserté la plateforme à son arrivée, un peu échaudés par les nouvelles conditions d'utilisation.
Et la bad buzz, on va dire.
Exactement. Et puis aussi, également, sans préciser vraiment d'échéance ni de date précise, Elon Musk, en fait, dit espérer que la valorisation de Twitter atteigne 250 milliards de dollars prochainement, on ne sait pas encore quand.
C'est-à-dire qu'on passerait de 20 milliards
à 250 milliards.
Et
c'est
franchement,
ça.
S'il arrive ça, chapeau. Chapeau. Ouais.
Oui, c'est pas mal, en effet. Ouais. Il en est encore un peu loin, on va dire.
Petit peu, mais bon, peut-être qu'avec Twitter Blue, les abonnements.
Cette information n'a pas énormément de valeur dans l'absolu, puisque c'est vrai que. Une valorisation d'une boîte comme ça, ça bouge tout le temps, finalement. Et donc là, elle n'est pas encore complètement... Enfin, les travaux de Twitter n'ont pas été complètement terminés. Donc, on verra dans quelques temps, dans quelques mois, quelques années.
Il l'a racheté un peu au creux de la vague. Hein. Il l'a payé très cher, mais c'était un peu au creux de la vague de la tech.
Bien sûr, bien sûr. Rappelons qu'il a payé 44 milliards, tu le disais tout
à l'heure.
Et là, voilà, la valo est à 20 milliards. Je pense que... dans l'actualité aussi, c'est la Chine qui ne veut pas vendre TikTok.
C'est ça, face à l'ultimatum des États-Unis, soit TikTok rompt ses liens avec ByteDance, donc qui est sa maison mère, soit c'en est fini du réseau social chinois sur le territoire américain. Pour l'instant, la Chine refuse en tout cas que TikTok soit cédé. Selon Xu Zhishu, donc qui est le président, le boss de TikTok, le gouvernement chinois ne possède pas TikTok et n'a jamais partagé ni reçu de demande de partage de données des utilisateurs américains.
Il ne connaît même pas TikTok, je crois. Hein.
Donc, non, mais surtout que ça ne s'appelle même pas comme ça là-bas. C'est ça qui est
fou. S'appelle Douyin.
Oui, Douyin.
Et du coup, de son résultat, le ministère chinois du commerce a indiqué qu'il était opposé à une vente forcée du réseau social, qui impliquerait en plus, selon lui, l'exportation de technologies qui sont liées aux algorithmes, qui nécessiterait également l'approbation du gouvernement chinois. La porte-parole du ministère a aussi affirmé que si la vente forcée de TikTok était avérée, la Chine ne donnerait pas son accord et que ça porterait également gravement atteinte à la confiance des investisseurs étrangers aux États-Unis. Ouais.
Bon, c'est incroyable ce bras de fer qui continue. C'est la suite des auditions qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Là,
c'est ça exactement.
Aux États-Unis.
Et puis partout dans le monde.
Des auditions qui étaient au Sénat, qui ont été terribles pour le fondateur de TikTok.
Des questions.
Accusé, levez-vous.
On avait vu ça déjà avec Zuckerberg.
Bien sûr, bien sûr.
C'est ça. Et puis on sait également qu'il y a beaucoup de gouvernements qui ont suspendu l'application sur les smartphones de leurs fonctionnaires. Mmh. Donc effectivement, TikTok.
Ah non, mais ça prend un tour géopolitique, diplomatique et géopolitique, cette histoire. Ça. C'est incroyable.
Tiens, dans l'actualité, pour terminer et pour rester sur les réseaux sociaux, c'est Instagram. Attention, votre fil Instagram va sans doute évoluer dans les jours ou les semaines qui viennent.
Louis. C'est ça, c'est la principale nouveauté qu'a annoncé la plateforme avec l'arrivée de publicité directement au milieu des résultats de recherche. Vous êtes en train de taper un mot-clé pour trouver des publications et vous pourrez prochainement être confronté à des contenus sponsorisés.
Ça, il n'y en avait pas. Toi qui es un pro d'Instagram.
Alors, pas dans les recherches. Alors, je ne suis pas un pro d'Instagram. Hein. J'y vais de temps en temps, comme tout le monde. Mais là, tu parles des recherches, en fait.
Oui,
on fait une recherche, véritablement.
On fait une
recherche. Comme un résultat sponsorisé sur Google.
Ah, exactement.
D'accord. Oui, parce que de la pub, il y en avait déjà.
Oui, il y en avait déjà, oui. Oui, il y en avait déjà, mais pas sous cette forme.
Moi, j'ai acheté plein de trucs sur le coup de 2h du matin.
Et le pire, c'est que je sais parce qu'il m'envoie toujours un SMS quand il achète quelque chose.
Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je fais pas d'achat compulsif.
Il me dit qu'est-ce que tu en penses. Je dis non, on n'y va pas. Il me dit c'est trop tard, j'ai acheté. C'est comme ça, on n'y peut rien.
Et puis Instagram annonce aussi également un second format publicitaire inédit qui est cette fois dédié aux événements. En fait, les internautes intéressés par une publicité pour une diffusion en direct, par exemple un concert ou une rencontre sportive, en fait, ils pourront choisir de recevoir un rappel, donc sponsorisé au début de l'événement. Donc voilà, c'est un déploiement de...
Why not?
De ces publicités vont être déployées là dans ces prochains mois. Et voilà, donc ouais, ça fait partie, en fait, si vous voulez, les résultats de recherche actuellement, ça fait partie des rares emplacements où Instagram n'a pas encore placé de publicité.
Oui, bien sûr.
Donc forcément...
Il est toujours bon de grappiller quelques millions de dollars supplémentaires quand on s'appelle Meta, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué, hein, les résultats financiers de Meta.
Exactement.
Sont complexes. Et donc, voilà, si on peut rajouter quelques millions à tout ça avec cette nouvelle... manière d'afficher de la publicité, pourquoi pas.
C'est ça, si ça peut aider à concurrencer TikTok, voilà. Je pense que c'est l'idée.
Jérôme, un petit rabais sur une vente Instagram, ça t'intéresse tout de suite, hein, toi?
Oui, bien sûr. Relève. Non, mais on se met toujours du côté du consommateur, on peut aussi se mettre du côté des annonceurs, c'est des outils formidables pour dès que tu as de la publicité à faire. Je ne parle pas des trucs de commerce un peu foireux, etc. Mais il y a des produits sérieux. Moi, j'ai acheté
ça,
des choses
utiles. Ça, en
théorie,
tous ces trucs foireux, c'est terminé. En tout cas, le gouvernement œuvre dans ce sens. Bien. Merci beaucoup, Louis.
Merci, Louis. Merci à vous.
Louis Mbembe, donc journaliste à la rédaction de Tech & Co. Ce Tech Hebdo est loin d'être terminé, les amis. Deux invités que nous allons maintenant vous présenter avec, en tout premier lieu, un salon, Jérôme, qu'on connaît bien.
Eh bien oui, ce sera l'événement du printemps, ici à Paris, en France, le salon Vivatech. Et oui, donc on y est chaque année, grâce à nous vous y êtes également, car c'est quand même l'événement qui au fil des années a pris de plus en plus d'importance, le salon Vivatech qui se tient à Paris, à la Porte de Versailles.
Et quelles vont être les tendances de cette nouvelle édition, la 7e je crois? On va en parler avec notre invité François Bitouzé. Bonjour François.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général donc de Viva Technologies.
Ça tombe bien.
Oui, ça tombe bien, du 14 au 17 juin prochain.
Voilà, exactement.
Cette nouvelle édition du salon, alors, salon tech européen, hein, il faut le rappeler quand même.
Alors c'est notre fierté, c'est le plus grand salon tech digital et start-up. Et c'est vrai que cette année, on met les petits plats dans les grands pour toute la communauté tech digital start-up du monde entier, Porte de Versailles, donc comme d'habitude, pour faire un événement vraiment qui soit absolument immanquable.
Alors, je vais vous casser les pieds, vous dites le plus grand, il y a l'IFA de Berlin qui est pas mal aussi, non?
Oui, mais alors, tech digital et start-up, exactement. Alors, il y a aussi le World Mobile Congress, mais vraiment, par rapport à ce que nous, on fait vraiment cette approche très généraliste, avec à la fois des start-up, les plus grands acteurs de la tech et du digital internationaux, et des grands groupes dans à peu près une vingtaine de secteurs. Vraiment, c'est le plus grand en Europe.
Ouais, c'est moins produit et commerce, c'est plus innovation
et
entreprise.
C'est beaucoup plus B2B, exactement.
Alors, vous connaissez la question qu'on va vous poser, hein, inévitablement. Celle-là, elle n'est pas chère, on vous pose la même à chaque fois. Quelles seront les tendances cette année?
Alors, les tendances, c'est d'être encore plus à la fois sur l'utilité, la pertinence du digital, que ce soit pour les entreprises, pour les startups, mais aussi pour les communautés et pour la planète. Donc, beaucoup de sujets dont on va parler à Vivatech. Il y en a quatre principaux sur lesquels on insiste cette année. Le premier, c'est Tech to Watch, c'est la techno qui va tout changer. Évidemment, vous me voyez venir, moi aussi.
Vous n'avez pas du tout parlé d'intelligence artificielle.
Exactement. Mais on va essayer d'en parler différemment avec tous les grands acteurs, que ce soit Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Alibaba, vraiment pour rentrer à l'intérieur du système, comprendre ce que ça va nous apporter, peut-être aussi se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut faire de cette intelligence artificielle. Voilà. Donc ça va être un des gros sujets. On va avoir aussi un gros sujet sur le tech for good, climate tech, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser la tech et le digital de façon à répondre aux grands enjeux qu'on connaît. Donc c'est lutter contre le réchauffement climatique, les économies d'énergie, tous les enjeux aussi sur la logistique, le transport. Là, il se passe des choses extraordinaires qui peuvent vraiment nous permettre de gagner, vous savez, ces degrés contre lesquels il faut qu'on se batte. La tech positive, c'est aussi la tech au service de l'humain, au service des communautés, au service des sociétés, avec cette année des choses très, très intéressantes sur l'inclusion, la diversité. Et on est très fiers parce que cette année, on va accueillir pour la première fois un village Femtech. Donc, vous savez que ça fait partie aussi des grands sujets, des marchés émergents. Et puis, notre quatrième sujet, alors là, on est à un an des Jeux Olympiques, voilà, je vous amène en juin 2023, on sera à un an à peu près des JO, on sera à 100 jours de la Coupe du Monde de rugby. Donc on va faire cette année un très gros focus sur sport et tech. Comment est-ce que La tech, le digital, les startups sont en train de transformer le sport. Les usages, les pratiques, le marketing, l'inclusion, la responsabilité et aussi tout le handisport. D'ailleurs, c'est un très, très beau programme.
Quand est-ce qu'on remplace les footballeurs par des robots, par exemple?
Alors, il faut demander à Sorare, ça tombe bien, il y a Nicolas Julia qui va venir nous voir. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à raconter là-dessus. Ouais.
Alors, on rappelle que VivaTech, c'est des startups, vous l'avez dit, des entreprises de tech, mais aussi des grandes entreprises françaises qui ne sont pas spécialisées dans la tech, en fait.
Exactement. Donc nous, déjà cette année, on repousse les murs, on fait 20% de surface en plus pour accueillir tout ce monde-là. 2400 startups, donc vraiment, elles viennent d'une cinquantaine de pays, donc vous allez avoir un incroyable panel sur toutes les innovations. Les grands groupes type IBM, Google, Meta, on reçoit cette année aussi Amazon. Et puis des grands groupes comme LVMH, Renault, on a aussi Manpower. Il y a à peu près 200 partenaires comme ça. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire, au moment où l'innovation est si importante, c'est d'avoir vraiment les meilleurs au niveau mondial des différentes catégories et de les faire interagir avec les pure players et surtout avec les startups pour créer de l'open innovation.
Il y a aussi beaucoup de, on va pas se mentir, beaucoup d'affichage de la part de ces entreprises pour montrer comme elles sont modernes, comme elles sont innovantes.
Ça fait partie de leur image.
Alors moi, je vous donne rendez-vous justement du 14 au 17 juin pour vous faire une idée précise. Il n'y a pas de tech washing à VivaTech. On fait extrêmement attention à ça parce que sinon, vous savez, c'est facile. On dit, on fait un partenariat avec une start-up et on devient le plus innovant. Non, voilà, quand on est à VivaTech, on est sur le devant de la scène et je peux vous garantir que nos 91 000 visiteurs, c'est des gens qui sont extrêmement rigoureux. Et si on essaye de les prendre à ce piège-là, je peux vous garantir qu'ils ne tombent pas dans le piège. Donc, vous allez avoir la crème de la crème.
91 000, c'était la fréquentation l'année dernière, en 2022. Est-ce que l'objectif, c'est de dépasser les 100 000? On n'est pas loin, là.
Ah, 91 000, 100 000, vous allez me dire 9 000. Écoutez, nous, on n'est pas dans la course à l'échelle. Mais... En tout cas, on est prêts. Je vous ai dit, on est 20% plus grand. On peut accueillir plus que 91 000 personnes, en tout cas, cette année.
Est-ce que vous arrivez à rayonner au-delà de la France? Parce que, alors, il y a un paradoxe. Déjà, on parle anglais à VivaTech, les conférences sont en anglais, etc. Mais dans les allées, on parle beaucoup français et on ne voit pas forcément beaucoup d'étrangers.
Alors, cette année, on va renforcer encore plus le côté international. On a à peu près, l'année dernière, on avait 35% d'internationaux. Et l'enjeu, évidemment, ce n'est pas d'avoir un événement français, c'est un événement européen. Il y a à peu près une vingtaine de pays qui ont des délégations de toute l'Europe. Et au niveau du monde, il y a à peu près 32 pays. Donc, vous voyez, VivaTech, petit à petit, grandit et devient cette plateforme en Europe, mais pour le monde entier, de la même façon que si vous allez au CES... Eh bien, évidemment, le monde entier est présent au CES et ce n'est pas juste un événement américain.
Alors, VivaTech, c'est aussi des stars de la tech qui font soit le déplacement, qui sont en visio. Quel est le programme cette année? Est-ce que vous avez déjà des têtes d'affiche qui vont venir à Paris?
Alors, on a déjà un certain nombre de grands speakers qui nous font l'amitié de venir à VivaTech. On va avoir, par exemple, il y a Werner Vogel, qui est le CTO de Amazon, qui va venir nous raconter un peu ce qui se passe dans les coulisses d'Amazon. On a Dan Schulman, c'est le patron de PayPal, et je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter en ce moment, aussi avec ce qui est en train de se passer avec les cryptos et tout ce qui est le micro-paiement. On aura aussi, par exemple, on aura Peggy Johnson, c'est la patronne de LeapFrog. C'est une start-up passionnante qui a plus de 10 ans d'existence, qui a levé plus de 2 milliards. On aura Herman Narula qui va venir aussi pour nous parler avec Improbable d'une autre vision du métaverse. Bref, voilà, des grands noms à la fois de Google, de Microsoft et puis aussi des belles scale-up et des belles start-up.
Des talents de la tech.
Ouais, et bien voilà. Bon, on s'arrête là ou il y aurait de la place encore pour une petite question?
Oui, vas-y si tu veux, oui, bien sûr.
Non, alors ce qui est original aussi, c'est qu'il y a une journée grand public. Où on le voit chaque année, il y a des familles qui viennent, alors parce qu'il y a une partie un peu foire où on peut essayer parfois des casques, des simulateurs, des choses comme ça. Cet aspect-là va être toujours renforcé.
On donne rendez-vous au grand public le samedi 17, parce que la tech, c'est pour tout le monde. Et cette journée grand public, elle a aussi une vertu, c'est de montrer à des publics, notamment des jeunes, notamment aussi aux jeunes filles et aux femmes, vous savez qu'il y a un gros déficit en termes de femmes dans la tech,
un peu,
de venir et de se rendre compte que la tech, Voilà, c'est pas juste un téléphone portable, c'est aussi des opportunités et c'est des très très belles opportunités. Très
merci bien. Beaucoup François et évidemment bonne préparation de ce salon qui nécessite évidemment beaucoup de travail. Nous on y sera en tout cas du 14 au 17 juin prochain, c'est à Paris, Porte de Versailles. Merci.
Merci beaucoup.
On va passer à notre deuxième invité de cette semaine. On va, allez, on vous l'a dit, on vous emmène sur les pistes de ski.
Alors Jérôme, je sais que tu es un grand skieur.
J'étais.
Tu étais.
Je fus.
Tu l'es toujours. Tu fais de la luge maintenant, ce qui finalement.
Oui, voilà. Mal. Et du métaverse aussi.
Est-ce que tu sais qu'on peut mélanger ski et réalité augmentée?
Mais effectivement, c'est. Je ne savais pas. Mais eh bien voilà. Notre invité va tout nous expliquer. Dimitri Charrière, bonjour.
Bonjour.
De la société Ostlung.
Ostlung Innovation.
Ostlung Innovation.
Alors. Zurich.
Voilà. Alors vous êtes un ancien skieur vous-même. Et vous vous êtes dit, bah tiens, comment améliorer en fait le quotidien des skieurs et surtout augmenter le plaisir, avoir un maximum d'informations. Vous avez mis au point ce masque que vous allez nous présenter aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous.
Alors au départ, quand on fait du ski, de plus en plus, on a besoin de faire des photos pour alimenter les réseaux sociaux, des vidéos ou tout simplement de répondre à un appel téléphonique. Et quand on est en train de skier, c'est évidemment une contrainte. Il faut s'arrêter, il faut enlever ses gants, chercher son téléphone. Donc on a décidé d'intégrer toutes les fonctionnalités du téléphone directement dans un masque de ski.
Pas mal.
Donc on peut évidemment d'une simple pression répondre à un appel, mais on peut également faire des photos, faire des vidéos. On a aussi une fonction en live stream. Et le masque est équipé de haut-parleurs avec un micro intégré. Et on a décidé ensuite de pousser un petit peu plus loin l'innovation en intégrant une lentille à réalité augmentée. Donc la lentille va dans la lentille, on pourra voir, c'est un NearEye Display que nous avons breveté. Et dans cette lentille, on va pouvoir obtenir toutes les informations utiles pour le ski. Donc évidemment la localisation,
ouais.
La localisation de ses amis, mais et également toutes les informations et paramètres de vitesse, d'altitude.
On a la vitesse.
Exactement.
On a un compteur de vitesse en temps réel.
Alors, ça se représente comment? C'est ce qu'on voit sur l'écran, c'est-à-dire qu'on a un affichage
exactement,
en réalité augmentée, c'est-à-dire qui vient en surimpression de ce qu'on voit.
Un affichage tête haute.
Tête haute, en effet.
En surimpression de la réalité.
Qui est assez précis et de bonne qualité.
Qui est très précis et de très bonne qualité. D'accord. Et moi qui porte des lunettes, on voit absolument. J'ai pas besoin de mes lunettes pour voir l'affichage, on voit très très bien.
Mais on peut garder ses lunettes quand même?
On peut aussi garder ses lunettes, bien sûr. Le masque est assez large pour pouvoir garder ses lunettes.
Qui est sans lunettes?
Oui,
ça peut mal finir.
tout dépend dans quel état on est, en fait.
Ouais.
Mais alors, il y a plein de technologies, finalement, dans ce masque. Est-ce qu'il existe déjà, en fait? Vous en êtes où dans la conception de ce masque?
C'est un concept ou c'est un produit fini?
Alors, c'est un produit fini.
D'accord.
Il sera disponible sur le marché pour l'hiver prochain. Il y a eu, dans le passé, des tentatives qui n'ont pas été, finalisées. Sans doute par, à l'époque, les performances technologiques ne permettaient pas d'avoir les précisions et les performances qu'on a actuellement.
D'accord. On me souffle une question dans l'oreillette qui est une très bonne question.
Pour une fois de Jean-David.
Pour une fois de Jean-David. C'est vrai que les casques de ski, souvent, on a des problèmes de buée. On crache dedans, etc.
Tu craches
dedans? Ah non,
dedans,
c'est dans les masques de plongée plutôt.
Oui,
pardon. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de buée. Comment est-ce que...
Alors, il y a des problèmes de buée dans tous les masques de ski à partir du moment où on se met à transpirer.
Mais oui.
Mais évidemment, le masque est équipé de systèmes d'aération. Donc,
on ne va pas se retrouver dans le brouillard.
Dimitri, racontez-nous comment ça marche tout ça, parce que évidemment c'est bourré de technologie, la caméra, les boutons qu'il y a sur le côté, l'affichage tête haute, tout ça est connecté au smartphone ou est-ce qu'il est autonome ce masque-là?
Alors le masque il bénéficie d'une certaine autonomie, donc évidemment il est sur batterie, il est autonome au niveau des capteurs qui captent la vitesse, l'altitude, et il est évidemment connecté en Bluetooth au téléphone. Donc, on peut accéder directement à toutes les fonctionnalités du téléphone, la musique, le carnet d'adresses.
Les appels, on peut passer des coups de fil aussi avec?
On peut répondre et passer des coups de fil avec.
Donc,
il y a un micro intégré.
Alors, on a des écouteurs externes avec un micro intégré.
D'accord. Et c'est pas dangereux? Parce que ça isole encore plus le skieur. Et comme on voit que les skieurs skient de plus en plus mal...
Alors, Pas du tout. On a fait des tests dernièrement sur la neige. La lentille, la réalité augmentée n'est pas dans tout le champ de vision. Mm-hmm. Plus on va vite, plus on se concentre, plus le champ de vision se réduit. Donc on s'écarte vraiment de la lentille et on reste D'accord. concentré sur ce qu'on a devant soi.
Quelle est l'autonomie de
Alors le masque sera vendu avec deux batteries puisqu'on a des contraintes thermiques en montagne évidemment.
Ah oui, ça dure moins longtemps.
Ça dure moins longtemps quand il fait froid. Donc le masque sera vendu avec deux batteries. On peut compter.
Sinon, il faut mettre des batteries dans un sac à dos.
Ou on peut se balader avec un sac à dos et des batteries.
Donc ce seraient les batteries interchangeables.
Les batteries sont interchangeables.
Et l'autonomie, là, avec une batterie ?
Alors avec une batterie, on va dire.
Dans des conditions réelles ?
Avec des conditions d'hiver négatives. Entre 2 et 3 heures, donc avec deux batteries, on tient environ 6 heures, ce qui fait une bonne session de ski.
Une bonne journée de ski.
Et dans des conditions printanières, on aura une autonomie doublée.
Un peu plus longue.
Ouais, bien sûr.
Petite question concernant la navigation, parce que c'est vrai que parfois, quand tu arrives dans une station que tu ne connais pas, tu ne sais pas trop quelle piste prendre, etc. Il y aura aussi un système, comme une espèce de Google Maps des pistes.
Exactement, ils sont en train, on essaie de travailler avec les stations, comme Crans-Montana en ce moment, qui est notre camp de base, pour améliorer la digitalisation des maps de ski, des cartes de ski.
Depuis le début. Non, tu tournes à droite, tu as une bleue, à gauche, tu as une rouge. Bon, bah, je vais aller à droite alors. Hein.
Et
je
suis pas très bon skieur. Le masque est aussi couplé avec une intelligence artificielle. Donc, une fois que la map sera chargée, on sélectionnera son niveau de ski. Et si on est beginner ou intermédiaire, masque ne va pas nous emmener sur des pistes qui ne sont pas adaptées à notre niveau.
Eh bien voilà, ça me donne presque envie d'y retourner.
Exactement. Et avec l'intelligence artificielle, plus la digitalisation des cartes des stations de ski sera précise, plus le masque pourra analyser les zones dangereuses et les zones à ne pas aller.
En un mot, le prix ?
Il y aura deux versions.
Ouais. En deux mots, alors.
Il y aura deux versions. Une version qui bénéficiera de la communication et de la caméra aux alentours de 600 euros. Et pour aller pour la version pro avec l'affichage en réalité augmentée autour des 1000.
Eh bien voilà. Merci beaucoup Dimitri Charrière, directeur opérationnel chez Oslung Innovation.
Merci
pour ce masque très sympa qui donne envie de se balader dans la poudreuse.
On n'a pas pu le tester avant de vous le présenter, mais voilà.
En tout cas, ce Tech Hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, comme chaque semaine, c'est toujours un vrai plaisir que de passer ces minutes en votre compagnie. On sera là la semaine prochaine, Jérôme.
C'est fort probable. Ouais. D'ici là, portez-vous bien. Une semaine pleine de tech, c'est ce qu'on vous souhaite. Salut à tous.
Et la semaine prochaine, on sera à l'Amazon Web Summit. Tiens, on va parler cloud, entre autres. Mais pas que. Merci d'être là. À très vite.